Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis.
Ma chérie, il y a bientôt 4 ans, mon amie Caroline m'a envoyé un livre à Los Angeles. Ce livre s'appelle Le consentement. C'est drôle, le consentement. C'est un mot que je ne connais pas. Ça veut dire quoi ? Je décide de le lire, page après page, je me noie. Des mois ont passé, le consentement est dorénavant dans la bibliothèque, domestiqué, sage. Comme une chemise bien repassée, une petite fille qui se tiendrait bien à table. Le consentement. Je comprends qu'il est temps de raconter mon histoire. Il est temps. Ce texte est un extrait d'une lettre de Judith Godrèche adressée à sa fille Tess. Le Monde l'a publié en même temps que paraissait une enquête sur la relation entre Benoît Jacquot, 39 ans à l'époque, et Judith Godrèche, 14 ans au moment de leur rencontre. Judith Godrèche raconte l'emprise, les violences physiques et psychologiques, les viols. Elle parle d'enfance kidnappée. Comment un homme de 39 ans noue-t-il une relation avec une enfant de 14 ans ? Et qu'est-ce que c'est qui se noue au juste entre un mentor, un roi en son royaume et une adolescente ? Et que faisaient les adultes autour ? Une des choses marquantes dans cette enquête, c'est que Judith Godrèche parle, Benoît Jacquot aussi parle. Il dit « Ça ne m'empêche pas de dormir, ça me fait même plutôt sourire. Je ne me sens pas directement concernée. » Par contre, ce sont certains des adultes qui étaient autour de Judith Godrèche et de Benoît Jacquot à l'époque qui refusent de répondre aux journalistes du Monde. Dans cet épisode, l'adolescence trahie de Julie et Marine, une adulte qui veille, au micro de Bénédicte Gilles. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
Moi du coup je vis à Toulouse. J'ai 14 ans, je suis étudiante en collège comme il y en a beaucoup. Et puis j'ai ce petit truc particulier depuis que je suis toute petite, c'est que je fais du théâtre depuis très très enfant. Et ma maman qui est formidable et qui me soutient à fond là-dedans me trouve toujours au maximum des stages, des activités. Un jour, ma mère me dit qu'elle m'a trouvé un nouveau stage. Elle me raconte que c'est un metteur en scène et scénariste parisien et qu'il vient faire des stages en province pendant les vacances scolaires. Je regarde un petit peu ce que c'est, ça a l'air hyper chouette. Il parle de stage devant la caméra, donc le principe étant que c'est un truc à mi-chemin entre théâtre et cinéma et que du coup, tout est filmé. Donc le premier jour du stage, j'arrive avec ma maman qui m'accompagne. Et puis la première chose, du coup, c'est la rencontre avec le prof. Je le trouve tout de suite très sympathique. Il a l'air aimable, il s'entend hyper bien avec ma mère, il est assez marrant. Je rentre dans la salle, on est, je pense, une petite dizaine, quinzaine. Et on a tous entre, je pense, 10, 11 et 17, 18 pour les plus âgés. Sébastien, il commence à nous raconter comment le stage va se dérouler. Le principe du stage, c'est que chaque jour est consacré à des impros autour d'une émotion. Le premier jour, c'est des scènes d'affrontement, parce que c'est plus facile à travailler pour commencer. Le deuxième jour, il nous dit qu'on fera des impros plus sur des émotions fortes. Le mercredi, c'est des impros face à un adulte, donc avec lui en face derrière la caméra. Le jeudi, c'est le jour des scènes sentimentales, des scènes d'amour. Et le dernier jour, c'est le dernier jour de stage. Du coup, on restitue ce qu'on a travaillé pendant toute la semaine. On avait des textes qu'il nous a donnés dès le début. Hyper emballé, on s'entend hyper bien avec les plus âgés du groupe. Avec lui, on s'entend très, très bien aussi. Il a l'air très jeune dans sa tête. Il a à vue de nez une grosse quarantaine bien tapée, facilement ouais, un bon 45. Et pourtant, il y a un feeling qui se passe tout de suite. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à me lier avec des adultes, juste parce que j'aimais bien traîner avec des adultes. Mais avec lui, il y a un vrai truc qui se passe. Et je vois bien que ça le fait pas qu'avec moi, ça le fait avec tout le monde. Immédiatement, il nous dit le tutoyer et il nous engueule presque. Si on le vouvoie ou qu'on l'appelle monsieur, c'est la pire des choses. Il fait beaucoup de blagues, on fait fou rire sur fou rire. Moi, je le trouve très bon prof et mine de rien, à l'époque, j'ai fait pas mal de stages, donc j'ai vu des profs défiler. Et avec lui, il y a un feeling qui passe tout de suite. Et il y a un truc aussi qui se crée pendant la semaine de stage, c'est que il a l'air d'hyper bien lire dans les gens. J'ai un petit coup de cœur pour une de mes profs au collège. Et quand je sors de cette première journée de stage, j'ai le programme du stage dans les mains. Puis je prends le goûter chez ma meilleure amie. Et on regarde ensemble le programme. Et quand, dans les scènes face à un adulte, elle voit écrit une scène qui raconte l'histoire d'une ado qui avoue ses sentiments à son prof, elle me fait une petite blague en mode « T'imagines si t'as cette scène-là » Et puis la semaine de stage continue et le jour où on fait des scènes face à un adulte, il l'annonce que c'est moi qui fais la prochaine scène et il annonce que c'est celle-là que je fais. Et puis je fais une scène absolument atroce. Du coup, je me sens pas du tout bien dans mes baskets et dans ce que je raconte et parce que c'est trop proche. Et à la fin, je vais le voir à la pause. Il dit qu'il comprend pas trop parce qu'effectivement, depuis le début du stage, tout se passe très bien. Et je lui explique que je me sentais pas bien parce que c'est trop proche de moi. Je lui raconte rapidement l'histoire qui me turlupine à l'époque. À ce moment-là, sur ce qui se passe au collège, sur comment est-ce que je me sens, il prend vraiment à cœur ce que je lui dis. Et il me laisse parler jusqu'à la fin. Et à la fin, il me dit « C'est fou parce que je t'ai donné cette scène-là, parce que je l'ai senti, cette maturité et cette chose-là, de c'est un truc qui te parlerait. » Et pour moi, ça m'a paru fou qu'il arrive à lire en moi à ce point-là, qu'il comprenne qui je suis aussi vite et qu'il le voit, ça. Parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait des signaux écrits sur mon front. Le jeudi, c'est donc le jour des scènes sentimentales. Sébastien nous en avait déjà parlé depuis le début de la semaine. Ce qu'il nous avait dit, c'est que c'est important quand on est des ados et qu'on veut faire du théâtre ou du cinéma, de se préparer à avoir un peu de proximité physique pour une raison assez évidente, qui est que effectivement, quand on a entre 14 et 17 ans et qu'on veut faire du cinéma, il est plus probable qu'on soit pris pour des petits rôles dans des séries ados où potentiellement il y a des rapprochements amoureux, tout ça, et que c'est déjà habitué à embrasser des gens qu'on ne connaît pas sur scène, ou en tout cas avoir de la proximité physique, en fait ça a aidé, et que ça pouvait faire la différence sur un casting, quelqu'un de à l'aise avec ça et quelqu'un de mal à l'aise. Il avait été très clair au début de la semaine sur le fait que c'était pas obligatoire et qu'on n'était pas obligé d'avoir ce rapprochement physique, ou en tout cas si rapprochement physique il y avait, que c'était pas obligé de se terminer par un baiser, que le baiser était pas du tout obligatoire. Moi j'arrive assez sereine, et puis par rapport à cette histoire-là, moi j'ai déjà embrassé des gens à l'époque, c'est pas quelque chose qui me terrifie. Au contraire, je pense qu'au fond de moi il y a un peu un truc de... Il y a des garçons et des filles mignons et mignonnes au stage qui sont très sympas, ça me dérange pas. Ils commencent à faire les scènes, moi je suis assez contente parce que il me met avec des gens que je trouve chouettes sur scène, donc pas de stress sur ce feeling là. Et puis il y a d'autres duos qui s'en sortaient un peu moins bien, qui ont pas du tout osé aller au rapprochement physique jusqu'au point de s'embrasser. Il est jamais dans le jugement, dans ah vous auriez dû vous embrasser quand il débriefe la scène, c'est jamais des choses qu'il dit, mais assez naturellement. Tout le monde le fait ou presque. Il n'y a que un ou deux groupes qui se sentent pas. Lui, à la fin du stage, il nous rappelle, s'il y a des intéressés, que lui fait des stages sur Paris. Il me dit, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que je sens avec toi en jeu. C'est hyper intéressant ce que tu produis, c'est beau. Et moi, je pense que si tu viens à Paris, il y a des choses chouettes qui peuvent se passer pour toi. Je peux te faire rencontrer du monde et ça me ferait trop plaisir parce qu'on a vraiment créé un lien. lui et moi, mine de rien, sur une semaine de stage. Et il me dit, j'en parle à ta maman. Je lui dis, d'accord, moi, j'y crois pas trop, parce que je me pose plein de questions de... ça veut dire qu'il faut que je monte sur Paris, que je trouve un hébergement. À 14 ans, j'ai quand même conscience que c'est un coup d'envoyer quelqu'un sur Paris. Et puis, moi, je me dis, ma mère me laissera jamais y aller seule, donc ça veut dire qu'il faut trouver un hébergement pour deux, au moins. Le soir, quand je rentre après le stage... ma mère me dit, effectivement, on a parlé avec Sébastien, il m'a appelé en me disant qu'il veut vraiment que tu viennes faire un stage à Paris. Il propose de t'héberger si jamais il y a besoin que t'aies un hébergement sur Paris. C'est un truc qu'on discute du coup avec ma mère, puis elle voit que ça me ferait vraiment plaisir et que ça me rendrait vraiment heureuse. Du coup, on cale ça et on prévoit qu'au mois de juillet, je retournerai sur Paris, d'abord avec ma mère, que ma mère viendrait avec moi... jusqu'à Paris, que je passerai la première partie de la semaine avec ma mère, et elle avait un événement à la fin de la semaine. Du coup, il était prévu que à la fin de la semaine, elle me laisse avec lui pour les 2-3 jours qui restaient, et que je rentrerai à Toulouse après coup, en prenant le train de Paris pour rentrer jusqu'à Toulouse. Ce deuxième stage, il se passe hyper bien. Dit aux autres élèves, parce qu'il y a quand même un petit groupe assez régulier, donc il y a plein de gens qui le connaissent déjà. Il me présente vraiment en disant, on s'est hyper bien entendu, elle est super, elle est vraiment formidable. Et puis ma mère part au milieu de la semaine, et puis je finis la semaine chez lui. Je rencontre sa femme, avec qui ça se passe très très bien. Et à la fin de la semaine, à partir du moment où je suis chez lui, c'est là où il y a vraiment des choses qui se passent entre nous, parce qu'on s'entend hyper bien, parce qu'on est ensemble du coup du matin au soir, on mange ensemble le midi, on va manger des sushis à côté du lieu du stage, et puis on commence à papoter de tout et de rien, de ma vie, un peu de la sienne, mais surtout de la mienne et de mon adolescence et de ce que je fais, de ce que je veux faire. On a créé un vrai lien pendant ces quelques jours qu'on a passé ensemble à Paris, et du coup on se met à discuter assez régulièrement. On se donne des nouvelles, on s'envoie des choses, des photos, des vidéos, des bêtises, on papote, on se donne des news. Et cet été-là, il loue un truc à 1 heure de Toulouse. Et du coup, il me dit, est-ce que ça te dirait qu'on se voit ? Quelques semaines plus tard, on se retrouve enfin. On se fait un gros câlin parce qu'on s'est beaucoup manqué. On fait une photo qu'on poste sur Facebook. Et c'est une trop belle soirée parce que du coup, mes parents sont là, le rencontrent mieux que ce que ma mère avait pu faire à l'époque, mon père le connaissait pas. Après ce moment qu'il a passé chez nous au mois d'août, où il a dit pendant le repas à ma mère qu'il aimerait beaucoup que je refasse un stage à Paris, moi c'est un truc qui me travaille beaucoup, moi je meurs d'envie d'y retourner, ça me réjouirait trop de repasser une semaine là-bas, parce que ce serait le revoir, parce que ce serait refaire un stage, mais ma mère est un peu réticente, parce que c'est un coup de m'envoyer à Paris, et c'est là que Sébastien propose à ma mère assez naturellement de lui faire une jolie réduction sur le prix du stage. Ma mère est hyper touchée qu'il propose ça, et lui, il lui dit que c'est parce qu'il aime beaucoup ma présence et qu'il a très très envie que je sois là et que ça le réjouirait carrément. Et il lui propose aussi de faire comme on a fait au mois de juillet, c'est-à-dire de m'héberger, mais toute la semaine cette fois. Ma mère accepte, parce que ça s'est très très bien passé la première fois. Donc je prends le train toute seule pour y aller. J'y vais avec une petite sensation de fierté de me dire que je pars toute seule à Paris. Je vais être toute seule sans mes parents, avec lui évidemment, mais je sais qu'avec lui c'est pas la même chose. Il est plus âgé que mes parents, mais il y a quelque chose avec lui où je sens qu'on n'a pas de rapport parental, on a un rapport amical. C'est un ami, c'est en train de devenir un ami, et je sais qu'avec lui, je peux faire absolument tout ce que je veux. Évidemment, je ne vais pas aller me balader toute seule dans Paris, puisque je ne connais pas la ville et qu'il ne me laisserait pas toute seule. Par contre, si je veux rester éveillée jusqu'à 4h du matin en regardant des films dans son salon, avec lui souvent, je peux. Cette semaine à Paris, elle se passe hyper bien, dans la continuité de ce qui s'est passé au mois de juillet. On s'entend hyper bien, on mange ensemble tous les midis. Il me fait visiter Paris, il m'emmène au ciné, au resto. Et en plus de la semaine de stage, qui une fois de plus se passe très très bien, on continue à se connaître de plus en plus, et à de plus en plus proches, et à savoir de plus en plus de choses l'un sur l'autre. On décide avec ma mère que je vais aller faire un autre stage à Paris. Cette fois, c'est un peu particulier. Dès le premier stage à Toulouse, il parlait de cette chose-là, de ces stages intensifs, disons. Le principe, c'était d'emmener tous les jeunes dans un grand gîte en région parisienne. Le principe, c'est qu'il y avait 4 intervenants et intervenantes. Lui, qui faisait de l'impro, une autre prof d'impro ou de développement personnel, selon ce qu'il trouvait, une prof de chant et un prof de corps, de danse ou de cascade, selon ce qu'il trouvait aussi. J'arrive la veille du départ du gîte et du coup, on passe la soirée chez lui. On s'installe dans le canapé-lit de son salon, qui est l'endroit où je dors. On se met un film et puis à la fin de ce film, je sens qu'il est bouleversé et je lui demande si tout va bien. Et il me dit, est-ce que je peux te raconter des choses pour lesquelles tu ne me jugeras pas ? Je dis, évidemment, t'es quelqu'un de très important pour moi, évidemment que je ne jurerai jamais ce que tu me raconteras. Et il me raconte, un peu gêné, parce que je sens que c'est étrange pour lui de m'en parler, il me raconte l'histoire d'amour qu'il vient de vivre ces derniers mois. Il me raconte que, en fait, il a rencontré une jeune femme qui a facilement 20 ans de moins que lui, avec qui il a vécu une petite histoire dans le dos de sa femme, qu'il a été à deux doigts de tout plaquer pour elle, et que ça commence à se reconstruire avec sa femme à l'instant. Elle, sa femme, a été d'une acceptance folle en disant « Moi, si tu arrêtes tout contact avec cette nana-là, je reconstruis tout avec toi. » Et il me pleure dans les bras en me racontant cette histoire. Moi, je suis très émue du fait que lui, Sébastien, que j'admire beaucoup, est de plus un adulte, que je considère comme l'adulte le plus proche de ma vie, certes, mais un adulte tout de même, me confie ça, me pleure dans les bras. Et moi, pendant tout ce moment où il parle et où il me raconte ça, je le regarde et je souris intérieurement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vécu à peu près la même histoire en miroir. À Toulouse, j'ai rencontré quelqu'un d'un peu plus âgé que moi, avec qui j'ai vécu une petite histoire qui, pour moi, à cette époque-là, est la plus belle histoire de ma vie. Et moi, je suis hallucinée pendant qu'il parle et j'écoute tout son récit parce que j'ai l'impression que son récit est le mien inversé. Et donc, après qu'il m'ait raconté cette histoire, c'est à moi de lui raconter la mienne en lui disant « J'ai écouté absolument tout ce que tu m'as dit. Tu vas pas encore tes oreilles parce que j'ai l'impression que tu viens de me raconter les 3 derniers mois que je viens de vivre. » Et on finit cette soirée folle à se donner des recommandations sur nos peines de cœur respectives. Et on finit tous les deux par se pleurer dans les bras. C'est très intense. On s'est confié des choses qu'on n'avait jamais confiées à personne l'un et l'autre. Et on est terriblement émus de l'avoir fait l'un pour l'autre, d'avoir été là l'un pour l'autre. Le lendemain, on part donc pour le gîte. On prend la voiture. On a... 1h30 de route, et pour nous c'est trop bien parce qu'on va être que tous les deux pendant ce trajet. Donc on profite de cette dernière heure et demie avant d'être pendant une semaine avec du monde, et il me propose de mettre de la musique, et je fouille dans la boîte à gants de sa voiture pour essayer de trouver quelque chose, et je tombe sur un album que je connais, qui est un album d'une chanteuse qui s'appelle Linda Lemay, et l'album s'appelle Allô, c'est moi. Cet artiste, je l'aime beaucoup et je connais pas bien cet album. Donc du coup, je lui dis, est-ce que on peut mettre ça ? Et il est absolument halluciné que moi, à 15 ans, je connaisse cet artiste, qui est une artiste québécoise de chansons de variété française peu connue, mine de rien. Surtout à cet âge-là, disons. Et on met cet album qui tourne pendant tout le trajet. Et à un moment donné, on est dans un moment de silence sur une chanson et on est bluffé par une chanson qui passe, qui s'appelle « Mon Gérard ». Et qui raconte une amitié fusionnelle entre un homme et une femme. Et c'est lui qui le dit en premier, qui dit « C'est fou, c'est nous ». Et j'acquiesce, et je suis hyper d'accord. Il y a cette amitié folle entre nous, cette complicité qui est hyper importante, cette confiance inébranlable qu'on a l'un pour l'autre. Surtout le lendemain de ces aveux fous qu'on s'est fait, qu'on n'avait jamais fait à personne d'autre. On arrive au gîte, et on est une grosse quarantaine, 45 peut-être, de manière à ce qu'on puisse tous les jours être divisé en 4 groupes pour tourner pendant toute la journée avec ces 4 profs. C'est des journées hyper intenses, mais absolument formidables, comme on peut imaginer une colo de jeunes, c'est-à-dire on dort tous dans des grands dortoirs, dans des chambres qu'on a plus ou moins choisies, avec plus ou moins nos amis, et puis des grandes tablées de repas, le soir des animations, des visionnages de films surtout. Pendant ce stage, moi, je rencontre un garçon avec qui le feeling passe plutôt bien. Moi, du coup, j'ai eu cette histoire avec cette personne bien trop âgée pour moi, et j'ai besoin de me détacher de cette histoire. Et du coup, j'ai absolument besoin de trouver quelqu'un d'autre. Pour moi, ça me semble évident. Et je rencontre un garçon avec qui ça se passe très bien. Et le dernier soir du stage, c'est la grosse soirée de restitution. On fait des impros tous ensemble. On chante les choses qu'on a chantées. On monte les chorés qu'on a travaillées. Et moi, je sais que plus tôt dans la journée, les plus âgés du stage, ceux qui avaient déjà 18 ans, sont allés faire des courses avec Sébastien. Et je sais qu'ils ont ramené de l'alcool. Lui, il a un peu une attitude de « si je ne vous vois pas faire, je fais comme si je ne le sais pas », alors qu'il le sait très bien, il était là au moment des courses. Et du coup, je sais que cette soirée-là, elle va être alcoolisée. Alors, on a deux bouteilles de vodka pour 45 jeunes, donc on ne va pas aller bien loin. En revanche, moi, c'est ce soir-là que je bois de l'alcool fort pour la première fois, et c'est ce soir-là que je vais vivre ma première expérience sexuelle avec ce garçon avec qui ça se passait bien, où vers 6h du matin, on s'est trouvé un endroit pour faire nos bêtises pendant que tout le monde dormait encore. Et puis le lendemain matin, tout le monde s'est réveillé. Et puis du coup, c'était des adieux déchirants avec tout le monde. Moi, notamment avec ce garçon avec qui je m'étais liée, qui lui habitait à Paris, donc que j'allais jamais revoir. Et puis on est reparti en voiture avec Sébastien. Après ce stage, on continue à beaucoup se contacter. Moi, je retourne faire des passages à Paris assez régulièrement, au moins une voire deux fois par an. Il y a toujours en général un stage à la Toussaint. Et si j'ai le temps et que les finances peuvent le permettre, il y a un stage au mois de juillet. Cette petite ristourne qu'il avait fait, elle est toujours d'actualité. Et le plan de moi qui vais dormir chez lui n'a jamais bougé. Et il n'a jamais été envisageable que je fasse autre chose que d'aller dormir chez lui. Parce que maintenant, c'est un rendez-vous important où on se donne régulièrement et on se demande régulièrement des nouvelles de nos histoires respectives. Quand je viens à Paris, les stages, ils changent un peu d'ambiance aussi parce que je grandis. Et du coup, on fait des choses qu'on faisait pas à l'époque. On va boire des coups. On organise des soirées sur des rooftops à Paris avec d'autres du stage. Mais du coup, on a une relation qui change au fur et à mesure que moi, je grandis, parce qu'on n'a pas les mêmes sujets de conversation, parce que j'ai pas la même attitude, parce que je deviens une jeune adulte. Pendant cette période-là, on est invité à son mariage avec sa compagne. En fait, cette histoire-là, avec cette jeune fille qui a été sa maîtresse, les a renforcés, d'après ce qu'il me dit. Avant le mariage, Sébastien avait dit à tout le monde « Si vous voulez chanter quelque chose sur scène, moi ça me ferait trop plaisir. » Et il nous explique qu'il y a un de ses amis qui sera là pour accompagner, qu'il suffit de s'organiser un peu en avance, de lui envoyer la partition. Du coup, il serait ravi qu'on lui chante des choses. Et moi, il me fait une demande spécifique en me disant « J'ai très envie que tu me chantes quelque chose. » Il sait que je chante. Et je dis « D'accord. » Je dis « Est-ce que tu veux un truc en particulier ?» Et il me dit « Non, je te fais confiance. » Et je pense tout de suite à Linda Lemay, mais je trouve pas la partition de Mon Gérard. Et donc je cherche dans la discographie de Linda Lemay et je retombe sur cette chanson qui s'appelle L'enfant aux cheveux gris, qui me parle particulièrement. Et là, c'est autant sur notre relation que sur lui. Ça raconte l'histoire d'un espèce d'homme-enfant qui est tout le temps heureux, qui est tout le temps jovial, qui est tout le temps drôle. Et cette chanson me parle et me fait penser à lui. Et à la fin de la chanson, il vient me serrer dans ses bras. Et il me dit qu'il connaissait pas cette chanson et que ça l'a bouleversé, que je trouve ça qui effectivement est plus qu'à propos sur lui et sur notre relation. À mes 18 ans, juste après avoir passé mon bac, je décide d'aller vivre à Paris. Je découvre la vie toute seule, dans un appartement seul, et je découvre la magie du dating et des applications de rencontres. C'est formidable, j'en suis ravie. Et je fréquente pas mal de monde. Et c'est quelque chose dont Sébastien est plus ou moins au courant. Je lui donne jamais des détails, mais il sait que je vois beaucoup de personnes, beaucoup de garçons surtout. Puis un jour, je le retrouve dans un coin de Paris pour qu'on boive un verre ensemble. Et je quittais quelqu'un que je voyais assez régulièrement à l'époque. Et à qui je lui dis, c'est marrant, mais je parlais de toi à ce garçon-là que je viens de quitter. Et en disant, je vais voir Sébastien. Et il m'a dit, tu parles souvent de ce Sébastien, vous couchez ensemble ? Et moi, j'éclate de rire devant Sébastien en lui disant « T'imagines, il y a des gens qui pensent qu'on couche ensemble. » À ce moment-là, je sens que dans ses yeux, il y a quelque chose qui se noircit un peu. Et je lui dis « Ça va ?» Et il me répond « Sympa de réagir comme ça. » Moi, je ris d'un air un peu gêné et je relève pas. Mais je trouve ça très étrange parce que pour moi, c'était la plus grosse blague de l'année, le fait que quelqu'un pensait qu'on couchait ensemble. Et lui, je sens qu'il est vexé. Après un an à Paris, moi, je rencontre mon amoureuse avec qui j'emménage dans un nouvel appartement. Et du coup, on décide de faire une crémaillère de cet appartement avec tous nos amis respectifs. Il y a notamment Sébastien qui est évidemment invité. J'ai des amis de Toulouse notamment qui sont venus pour l'occasion et qui du coup vont rencontrer enfin ce fameux Sébastien dont je parle depuis des années. Et à un moment donné, pendant la soirée, pendant la crémaillère, une amie vient me voir en me disant Écoute, je sais pas trop comment te dire ça parce que je veux pas que tu le prennes mal et que vous avez l'air de très bien s'entendre. Mais Sébastien me met un peu mal à l'aise parce que moi je danse depuis tout à l'heure et je viens de me rendre compte qu'il filme tout depuis tout à l'heure. Et effectivement, comme à son habitude, il avait son téléphone à la main à filmer beaucoup ce qui se passait. Sur le moment, je dis rien, mais c'est le lendemain où quelqu'un m'a écrit en me disant la même chose que du coup je décide de lui envoyer un message en lui disant « Des amis m'ont dit que tu filmais tout et qu'elle était mal à l'aise, est-ce que tu peux faire quelque chose et supprimer les vidéos ?» Sur quoi il me répond évidemment « Pas de souci, je supprime. » Mais je tiens à dire que je l'ai, j'ai pas filmé à mauvais escient. C'était juste pour faire des souvenirs, mais aucun problème, je supprime sans souci. Un jour, il m'invite à une soirée chez lui, en me disant qu'il y aura plein de gens du stage, il cite plein de noms que je connais. Moi, je suis ravie d'y aller, parce qu'on s'est pas vu depuis un petit moment. Ça fait un moment que je suis pas venue chez lui, c'est chouette d'y être à nouveau. Et on est une petite dizaine. Et la soirée se passe bien, on boit des coups, il nous fait des cocktails, ça se passe très très bien. Et puis, à un moment donné, Sébastien propose qu'on fasse un action ou vérité. Et puis très vite, les questions et les gages commencent à être de plus en plus sexuels. Rien de grave, mais des choses d'enlever un vêtement, de mimer quelque chose, de ce genre de choses. Le premier gage un peu sexuel, c'est lui qui le propose. Je crois qu'il propose un gage qui est de une fille de l'assemblée doit mimer une fellation sur une bouteille. Et ça amuse tout le monde. Moi, ça me... J'ai une petite sensation étrange. Et j'ai une sensation encore plus étrange quand je vois qu'il sort son téléphone pour filmer, comme il avait fait à ma crémaillère. À un moment donné, il me donne un gage à moi de mimer quelque chose d'un peu obscène. Et il sort son téléphone et je lui dis « Sébastien, est-ce que tu peux ne pas filmer ?» Moi, ça me met pas très à l'aise, le fait que tu filmes. Et il me dit « Bah, ça va ?» Et je lui dis « Non, je suis désolée, ça me met vraiment pas à l'aise que tu filmes. En fait, moi, ça me fait rire et ça me dérange pas de le faire parce qu'on est entre nous. En revanche, ça me met un peu mal à l'aise. » Du coup, il repose son téléphone et la soirée se finit. Et puis à partir de là, on commence à beaucoup moins se voir. Je me suis sentie un moment extérieure à la soirée. Et alors que toutes les fois d'avant, je voyais Sébastien, que j'aimais d'un amour fou d'amitié, je voyais ça et des jeunes qui jouaient. Là, j'ai vu un homme de 50 ans jouer avec des jeunes adultes de 17 à 20 ans. Et l'image m'a un peu troublée.
Je suis Marine, je suis professeure de chant. C'est une amie d'une amie qui m'a contactée parce qu'elle participait déjà au stage depuis... Bon, elle avait dû le faire une ou deux fois. Elle m'écrit pour me dire, voilà... Moi, j'ai moins le temps de participer à ce genre d'événement-là, une colonie de vacances en fait en gîte en province qui dure une semaine. Donc, si ça t'intéresse, je te refile le plan, je te mets en contact. Elle me dit, voilà, c'est quelqu'un de très sympa, mais il faut de temps en temps quand même un peu le réguler. C'est un grand enfant. Bon, faut cadrer quoi. La première fois que je rencontre Sébastien, je me dis « Ah, bon, il a l'air sympa, mais il a une espèce un peu d'exubérance. Voilà, j'attends surtout de voir en fait ce qui se passe concrètement. Une fois que les élèves sont tous là, évidemment, bah, y a un moment, un temps d'accueil où il va... prendre le temps de faire un discours. Je trouve qu'il y a un placement qui me semble pas approprié, de l'ordre du « Alors, vous êtes là parce que je vous ai choisi. » Ben non, les élèves sont pas là parce qu'ils ont été choisis par Sébastien. Ils sont là parce qu'en fait, les parents ont payé et que... Enfin, ça n'a rien à voir. Je constate qu'il est très proche et très pote, qu'il joue sur ça avec les élèves. Il y a des positionnements et des limites à prendre et à donner, en fait. Moi, je ne suis absolument pas chargée d'encadrer les élèves hors cours. Mais même ça, ben, finalement, ce n'est pas clair non plus, parce que ben, comme il n'y a pas d'équipe d'encadrants, en fait, il n'y a pas d'interdit. Tu as quand même une quarantaine d'ados qui sont livrés à eux-mêmes, et en fait, moi, je ne peux pas fermer les yeux. Mais ce qui peut m'alarmer, c'est 5-10% du temps. Parce que les cours se passent ultra bien, parce que l'expérience, elle est super enrichissante, parce que je rencontre des collègues avec qui je m'entends très bien, que c'est stimulant. Donc, ça me donne envie de revenir. Cette seconde année, je me rends compte que là, oui, il y a vraiment du laisser-aller. Le soir, les élèves font la fête. Bah, ils font la fête, en fait. Il n'y a personne pour leur dire rien. Il n'y a jamais de limite. La veille de la restitution, puisque chaque fin de semaine, en fait, on fait une restitution, à un moment donné, je dois aller lui demander quelque chose. Et bon, il est dans sa chambre, dans notre bâtiment. Et j'arrive, je frappe à sa porte et j'ouvre, je rentre. Et là, je vois qu'il y a une élève, en fait, dans sa chambre. Il est assis sur son lit, elle doit être sur une chaise ou debout, c'est très flou. Ils sont soi-disant en train de répéter une scène pour la restitution du lendemain. Donc moi, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas qu'il y ait une élève dans sa chambre. En fait, pour moi, ça fait clairement partie des choses interdites et inadmissibles. Et bon, finalement, je demande ce que j'ai à demander et l'élève repart en même temps que moi. Le lendemain, la soirée de restitution a lieu. Et là, je me rends compte qu'en fait, cet élève-là ne joue pas sa pièce. Il n'y a pas de restitution avec elle. Je rentre chez moi et puis ce moment-là où en fait j'arrive et qu'elle est dans la chambre me trotte en fait. Je me rends compte que je rumine. Je me demande si est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait. Est-ce que j'aurais pas dû lui parler juste après. Enfin, ça me reste. J'en parle avec des amis aussi et ça va pas. Je me sens pas bien en fait. Et du coup, je décide de lui écrire. Comment ça va? Tu es bien rentrée. Bon, j'ai vu que finalement, t'avais pas joué ta scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Enfin, je lui tends vraiment beaucoup de perches. Et là, je vois que bon, je sais pas si c'est qu'elle botte en touche, mais en tout cas, elle me répond complètement à côté de la plaque. Elle a l'air super heureuse. Elle est dans la gratitude plutôt de ce qu'on a partagé. Et donc, je rempile quand même un autre message en lui disant, enfin, je le tourne de manière à ce que ça ne la culpabilise pas ni ne la responsabilise. Il y a un endroit qui est approprié pour répéter. Je lui fais comprendre que ce n'était pas un lieu adéquat. J'essaye de semer une petite graine qui, s'il y a besoin, lui permet de revenir vers moi ou lui permet juste de se sentir libre de me parler s'il y a quoi que ce soit. Donc, suite à ça et à tout ce que je ressens depuis ces deux stages-là, je l'appelle et je lui dis que j'ai un problème en fait avec ce que j'ai vu, que c'est pas possible d'avoir une élève dans ta chambre. Et il a joué sur le tableau. Ah oui, mais c'est la famille. Moi, je connais bien, tu sais, les familles, je vais chez eux. Voilà quoi, c'est limite si c'est pas mes enfants en fait. C'est intolérable. Il faut que ça change. L'année qui suit, par contre, ça a cheminé quelque part. Ça se passe mieux. Je trouve que ça roule un peu mieux. Il y a un peu plus d'ordre. Il a embauché une personne en plus qui est titulaire de son BAFA. Donc, sur la totalité de l'équipe, en tout cas, il y a deux personnes qui ont le BAFA. Je ne suis même pas sûre que ça soit suffisant, mais on travaille en tout cas quand même dans de meilleures conditions.
Un jour, je suis sur Insta et je me rends compte, je ne sais pas pourquoi, j'ai une pensée pour Sébastien en voyant la story de quelqu'un qu'on connaît en commun. Et je me fais la réflexion que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu de story de Sébastien passer. Étrange. Et donc, je cherche son profil sur Insta et je mets un peu de temps à le trouver parce qu'il a changé de nom sur Instagram. Il a changé sa photo de profil et il a supprimé beaucoup de photos. Et les dernières photos disponibles sur son compte, c'est les photos d'un gîte qu'il vient de faire. Je suis un peu intriguée, je lui fais un message sur Insta en lui disant « Est-ce que ça va bien ?» Ça fait un moment que j'ai pas vu passer des nouvelles, tout va bien. Et pas de réponse. Le lendemain, comme j'ai pas eu de réponse et que c'est très inhabituel, je lui fais un SMS en lui disant « Sébastien, est-ce que tout va bien ? Je m'inquiète. J'ai pas de tes nouvelles. Très étrange. » Et là, il me répond un peu plus vite. Il me répond quelques heures plus tard en me disant « Ça me fait plaisir que tu prennes de mes nouvelles. Effectivement, ça va pas très bien. J'ai des petits soucis en ce moment. Mais je peux pas t'en parler tout de suite. Je t'en parlerai quand ça ira mieux. » Je trouve ça très étrange de ne pas avoir de ses nouvelles et qu'il ne me parle pas de ses problèmes, puisqu'on a un peu perdu le lien, certes, mais on a toujours eu cette relation et qu'il sait très bien qu'il peut m'en parler s'il veut. Et je m'interroge et je me demande qu'est-ce qui peut se passer.
On est plus ou moins posé sur un petit jardin d'été, quoi. Et là, avec les élèves autour, il commence à faire une blague. Clairement, cette blague, c'est l'histoire d'un viol. Je dis, tu te rends compte, t'es en train de faire une blague qui parle d'un viol. Bah, je jette un peu un pavé dans la mare, en fait, mais moi, je m'en fous. Et lui, c'est, notre temps, on pouvait rire, moi, avec mes potes. Et voilà, je dis, non, en fait, il y a vraiment la notion de consentement. Et bon, je sens, ça jette un froid, mais c'est très important de montrer que quelque part, en fait, je suis en opposition avec ce qu'il dit, avec ce qu'il est, et clairement avec son comportement. Tout au long de la semaine, je sens que les élèves sont plus proches de nous. Et je me souviens particulièrement d'un soir où ils sont venus pour certains discuter un peu. Et puis, ils me disent de toute façon, moi, j'en ai marre des rôles qu'ils me donnent. Les rôles, c'est toujours les mêmes. En gros, c'est toujours des histoires de couple. Et moi, je suis toujours la femme trompée. Moi, voilà, je dois toujours être la salope qui fait ça. Faut toujours qu'on ait ce genre d'histoire-là. Je me dis, mais il y a quelque chose qui m'échappe, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce genre de scénario? Je sens que ça les pèse, quoi. Je sens qu'ils en ont marre. Mais de toute façon, moi, je suis venue pour le gîte parce que l'expérience, on retrouve les copains, c'est génial. Il y a une grande émulation entre tout le monde. Et puis, les cours sont super. Mais voilà, je sens que là, ils en ont marre. Et puis aussi, je constate que ceux qui viennent me parler, c'est ceux qui approchent la majorité ou qui vont basculer, en tout cas, dans cette majorité-là. Et c'est comme s'ils ouvraient un peu les yeux, c'est comme s'ils démystifiaient un peu le personnage et de se dire ils sont en train de grandir en fait, donc ils prennent conscience que y a un truc pas normal. Le dernier soir, la restitution se termine, donc c'est un peu soir de fête, bon, pour les élèves qui sont un peu dans leur quartier. On se retrouve dans une des chambres avec mes deux collègues, les deux autres professeurs. Et bon, à un moment donné, je dis, peut-être aller voir ce qui se passe du côté des élèves, mettre un petit brin de surveillance quand même. Et là, j'arrive et je vois qu'il y a une des élèves mineure, hein, qui est à moitié par terre, complètement ivre. Je sors de mes gonds, Je dis, mais là, ça va pas du tout. Je hausse vraiment le ton. Enfin, je crie, quoi. Et là, il y a justement deux filles majeures qui viennent me voir et qui me disent, non, on est vraiment désolées. Sébastien nous avait dit que c'est à nous de gérer les mineures, de faire attention à ce qu'elles boivent pas. C'est notre faute. Je dis, alors, absolument pas, en fait. C'est aucunement votre responsabilité. Et là, je sens... Je vois bien qu'en elle, il se passe autre chose. Et une des filles me dit « Est-ce que je peux te parler ?» Et donc là, je sais que ça va basculer maintenant, quoi. Enfin, c'est parti, quoi. On y va, je t'écoute, en fait. Vas-y. Et là, elle me dit « Il y a quelque chose qui se passe et qui va pas. » Surtout, en fait, elle me parle de son ami qui ne veut pas parler, qui n'y arrive pas, qui a été son assistante sur des stages en province et que il a eu des comportements déplacés avec elle. Je suis allée chercher donc cette autre fille qui avait vraiment du mal à en parler, hein, et qui, à la base, voulait même pas du tout... dénoncer, parce que c'est très difficile. Cette autre jeune fille qui est majeure depuis peu, donc qui m'explique en effet, oui, que pendant les stages, il l'a forcée à dormir avec lui parce qu'il n'y avait qu'un seul lit dans le Airbnb. Il a fait tout ce qui était possible pour dormir avec elle, pour avoir des câlins le matin, parce qu'en fait, pour se réveiller, il faut qu'il ait des câlins. Ouais. Et ne dort pas de la nuit et on essaie de recouper le maximum d'infos. On va prévenir en fait les personnes qui tiennent le gîte, qui nous reçoivent. Donc on décide d'appeler la gendarmerie ensemble. Dès que les bureaux ouvrent, en fait, il y a une partie de mes collègues qui y vont avec les élèves qui sont majeurs. Et on attend en fait leur intervention. Mais entre-temps, tout le monde se réveille, tout le monde se lève et on doit faire semblant. Et donc ça dure une heure ou deux où on est vraiment dans un entre-deux d'épuisement, mais de tenir bon parce qu'en fait... C'est maintenant ou jamais, en fait. On ne peut pas laisser les élèves rentrer à Paris avec lui. On ne peut pas lâcher celles et ceux qui ont eu le courage de venir nous parler. Quand la gendarmerie arrive et que, clairement, elle met Sébastien à l'écart, c'est l'hécatombe. Il y a des élèves qui sont par terre, en pleurs. Il y a de la stupeur. Et en même temps, il y a quand même beaucoup d'élèves qui sont en train de dire... Ça devait arriver, il fallait que ça arrive à un moment donné. Je savais que ça allait arriver, en fait. Donc, entre-temps, la gendarmerie auditionne Sébastien. Donc, ils l'ont mis de toute façon de base dans un bâtiment à part. Ils l'ont éloigné. Et ils reçoivent aussi le témoignage de la personne qui est majeure et aussi d'une élève qui est mineure. Finalement, le bus arrive pour chercher les élèves qui rentrent avec les deux animateurs. On part rapidement. Je me souviens, dans le train, je me sentais... Putain, c'est fait, quoi.
Quelques semaines plus tard, à la période de Noël, je rentre avec mes parents, on va chez ma grand-mère pour passer Noël. Et quelqu'un me demande des nouvelles de Sébastien. Et je dis que j'ai plus trop de nouvelles. Et ça m'agace un peu de pas en avoir. Donc, je décide d'écrire à une amie de stage que moi, je connais bien, qui le connaît bien et dont la mère le connaît bien. Donc, je me dis, il y a trois raisons pour lesquelles elle pourrait être au courant de ce qui se passe. Et je lui écris en lui disant, personnellement, j'ai pas eu de nouvelles de Sébastien pendant longtemps et il veut pas m'en parler. Est-ce que toi, tu peux m'en parler? Et elle me répond, oui, il y a eu un petit problème au dernier gîte. Sébastien est accusé d'attouchement sur mineur. L'affaire a été classée sans suite, mais comme, à ce qui paraît, ce serait pas la première fois, j'ai cru comprendre qu'il travaillait plus. Après, j'en sais pas beaucoup plus. Ma première réaction, c'est de me dire ça m'étonne pas. et c'est terrible que ce soit la première réaction, mais c'est le premier truc que je me dis. Je suis très énervée d'apprendre ça. Je pense qu'il y a une petite partie de moi, au fond, qui est très énervée de pas m'en être doutée et pas d'avoir rien fait, parce que je sais que j'y suis pour rien, mais j'ai une colère qui est légèrement liée à ça. Et on est en voiture avec mes parents, et j'explique à mes parents ce que je viens d'apprendre. Tout le monde digère l'information. Et ma mère, une des premières choses qu'elle me dit, c'est « j'aurais pu m'en douter ». Et je pense que la colère, du coup, elle est partagée sur cette chose-là de « on aurait pu le voir venir ». Une des premières choses qu'elle me dit, c'est « qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux être là pour lui ? Est-ce que ces années que vous avez passées ensemble, elles comptent assez ? Est-ce que ça peut pardonner ce genre de choses ? » Elle me pose ces questions-là qui sont intéressantes à se poser. Et la première réponse que je lui donne, c'est un non. Que je pense pas être capable d'être là pour lui après ce genre de choses. C'est absolument sûr que non. Après Noël, je rentre chez moi, à Paris, et je vais dans ma chambre pour poser mes affaires. Il y a un immense mur de photos, avec plein de photos qui datent de mes 14 à mes 20 ans. Et je suis assise sur mon lit, et je regarde ces photos. Je sens d'un coup que je suis profondément triste. Je regarde ces photos, je regarde partout dans ma chambre, et je me rends compte qu'ils figurent sur quasiment toutes les photos. Ou alors des photos ont été prises par lui, ou alors c'est des souvenirs qui sont liés à lui. Puis je détourne les yeux et je regarde ailleurs et c'est un cadeau qu'il m'a offert. Et en fait, j'explose en larmes parce que je me rends compte qu'il est partout. Je finis par avoir des nouvelles de lui un jour. Il m'envoie un message où il me dit « Salut, j'ai toujours des gros problèmes en ce moment. J'aimerais t'appeler pour qu'on en parle. Je pense que t'es la seule personne qui peut me comprendre. Et ça me fait mes hurler intérieurement qu'il puisse imaginer l'espace d'un instant que je puisse le comprendre. Donc je lui réponds sur le coup de la colère un message où je lui dis que non, je veux pas lui parler, en lui spécifiant bien que j'ai pas attendu qu'il me donne des nouvelles pour aller en chercher. Et il m'a répondu « Ok, je comprends. » Trois petits points. Cette histoire, elle tourne beaucoup dans ma tête plus j'en parle avec les gens, notamment avec ma coloc, qui est une de mes meilleures amies, et avec ma meuf, je me rends compte qu'en fait, il va falloir que je le confronte. Du coup, je finis par lui écrire en lui disant « Ok, on parle, on s'appelle, c'est moi qui décide quand, on se voit pas, on s'appelle. » Il me dit « D'accord. » Et je suis toute seule dans ma chambre, assise sur mon lit à ce moment-là. Je décroche et sa voix est tremblante tout de suite. Je crois que ça, c'est la première chose qui m'énerve dans cet appel, parce qu'il nous a toujours appris en stage à apprendre à pleurer sur commande. Et le fait que je décroche et que sa voix soit tremblante, ça m'a directement agacée. Il me raconte l'histoire de son point de vue, en me disant qu'effectivement, il y a cet élève, cet ado, que je connaissais un peu, en plus de loin, dont il m'avait déjà parlé. Et il me parle d'elle en me disant « je me suis égarée, c'était n'importe quoi ce que je lui ai envoyé ». Parce que sur cette jeune fille, on parle de messages très déplacés. Et il me dit « je sais pas, les choses étaient hyper intenses de mon côté. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je considérais beaucoup ». Il compare un peu sa relation avec elle à celle qu'on avait ensemble. Et puis il me dit « et puis pour la deuxième, j'ai commencé à la deuxième ». Et il me raconte une autre histoire, en fait, en disant qu'il y a une autre plainte contre lui de la part d'une autre jeune fille qui date d'un gîte de avant qu'on se connaisse, lui et moi. Donc il me raconte cette histoire en me disant « mais du coup, voilà, il y a aussi cette histoire-là qui remonte ». Il me dit « et pour la troisième ?» Et en fait, pendant cet appel, il me débriefe toutes les plaintes qu'il a contre lui, en trouvant à chaque fois une super excuse. Et il finit sur un truc qui me glace le sang. Il m'avait raconté à l'époque qu'il avait eu une petite histoire avec une de ses élèves qui était majeure, mais fraîchement majeure. Et il me dit, et elle aussi, elle porte plainte. Et je lui dis, mais... Pourquoi ? Enfin, il me dit, non, elle dit vraiment que tout s'est très bien passé, mais elle porte plainte pour suivre le mouvement. Globalement, cet appel, il est insupportable, parce que moi, je sais bien qu'il tourne autour du pot pour ne pas me raconter les bonnes choses et qu'il n'a aucune envie de me dire la vérité. C'est-à-dire qu'il a harcelé des jeunes filles, qu'il a des plaintes pour attouchement sur mineurs. C'est terrible pour moi, à ce moment-là, quand même, d'entendre cet homme que j'ai tellement admiré et tellement aimé, avec qui j'ai vécu tellement de choses, me mentir délibérément au bout du fil. C'était... Enfin, c'est insupportable, quoi. Moi, je savais pas à quel point les gens étaient au courant ou pas. Et j'ai un peu pris ça comme un espèce de rôle de devoir le dire aux gens. Ce qui était terrible, c'est que toutes les réactions étaient les mêmes. C'est-à-dire, ça m'étonne pas, j'aurais pu m'en douter. Mais c'était sûr, en fait. J'ai même un ami qui m'a dit un truc très particulier, qui m'a dit « mais moi, j'étais persuadée qu'il s'était passé des choses avec toi ». Les gens le savaient, au fond. Il y avait quelque chose d'un feeling, un sentiment de « là, c'est pas normal ce qui se passe ». Et puis un jour, je me suis dit que peut-être que le mieux, puisque lui au téléphone m'avait dit que c'était cette prof de chant qui avait appelé la police, je me suis dit peut-être que le mieux, c'est d'en parler avec elle. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'avais la vérité. Qu'on est du même côté, entre guillemets, et qu'elle me ment pas, et qu'elle n'a aucun intérêt à me mentir. Et que maintenant, on discute de femme à femme, et que de femme à femme, on se dit les choses sur qu'est-ce qui se passait quand moi, j'étais adolescente.
C'est encore difficile d'en parler, je me sens... Je sais... que j'ai fait les choses comme j'ai pu et de mon mieux, et que j'aurais rien pu faire avant, parce qu'en fait, on voit très bien comment ça se passe avec la justice, et qu'il faut du tangible. Alors, je me suis beaucoup... Souvent, j'ai culpabilisé, je me suis dit j'aurais vraiment dû faire quelque chose... avant ou de plus, mais en fait, c'était pas possible. Les choses, elles se sont faites au bon moment. Enfin, si, c'est pas, on peut pas dire un bon moment, mais quand il y a eu du concret, quand on a pu avoir un témoignage, Avant, c'était pas possible, donc je pense que j'ai fait mon maximum, en fait.
Aujourd'hui, je pense que je mentirais si je disais que j'ai totalement fait mon deuil et que j'ai totalement réussi à passer à autre chose. Ce type a tellement fait partie de ma vie que, malheureusement, je pourrais essayer de l'enlever autant que je veux, il y sera toujours. Parce qu'il y aura toujours une photo qui traîne, un souvenir qui remonte, juste une pensée, quelqu'un que je connais. Je connais tellement de monde grâce à lui que, évidemment, c'est quelqu'un dont je parle assez régulièrement. J'ai un peu la sensation qu'aujourd'hui, je peux plus regarder mon adolescence sans qu'il soit dedans. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir été volée là-dessus parce que aujourd'hui, mon adolescence, soit elle n'existe plus, parce qu'il faut que j'enlève tous les souvenirs avec lui, soit elle existe, mais il est dedans.
Moi, ce que je peux me dire aujourd'hui, c'est que si on sent qu'il y a un flou, si on sent qu'il y a peut-être des œillères, faut pas avoir honte, il faut pas culpabiliser, il faut essayer de parler au maximum. Oui, aujourd'hui, je me dis que c'est très important d'écouter son intuition.
Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, vous pouvez appeler le 30 20. Si vous êtes victime de viol ou d'agression sexuelle, que vous êtes dans l'entourage d'une victime ou que vous êtes un professionnel concerné, vous pouvez appeler le 0800 05 95 95. Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Bénédicte Gilles. La réalisation et le mix sont d'Amandine Robillard. Louise et Marley est à la production. À très vite.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.